Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Priez pour nous, Saint Joseph.
Priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola.
Priez pour nous.
Saint Jérôme.
Priez pour nous.
Nos saints anges gardiens.
Priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, on va commencer par éteindre le téléphone pour qu'on ne soit pas dérangé. Alors, nous en sommes sur le polycopier à la page 101. En bas de la page, nous allons commencer... Question 83 de la Seconda Secondé, l'article 9. Donc on a déjà en grande partie vu cet article en expliquant la dernière fois donc le sermon que Saint Ignace, que Saint Thomas d'Aquin pardon, avait donné. Celui qui prêchait à Naples. Et donc, c'est un peu un résumé de tout ce qu'il a dit. On trouve exactement la même doctrine. Donc, Saint Thomas d'Aquin va expliquer la grande prière que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a appris. Il nous a appris strictement parlant une seule prière de notre Père. Donc, les apôtres ont demandé, Seigneur, apprenez-nous à prier. Que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, leur donne le Notre Père. Donc, une prière absolument fondamentale. Alors, voyons un petit peu... Ce que dit saint Thomas, et ensuite on analysera avec le texte lui-même de saint Thomas d'Aquin qui est à la page 101, 102 et même 100, attends, que j'en suis 103 et 100, 101, 102, 103. Donc il y a pas mal de choses en bas de la page 101, toute la page 102, la page 103. Donc voilà ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Je vais simplifier parce qu'on ne peut pas tout dire. Encore une fois, il y a des livres et des livres qui ont été écrits sur simplement cette question. Hein. On peut étudier à fond. Garrigo Lagrange a beaucoup étudié ça. On étudie pas mal au séminaire. Il y a une mine pour la méditation, mais aussi pour les sermons. On pourrait prêcher une retraite complète très facilement, simplement à partir de cet article 9. De la question 83 de la Seconda Secondé. Donc, l'oraison dominicale, on appelle l'oraison dominicale, c'est notre Père, c'est pareil. Hein. Donc, l'oraison dominicale est une prière parfaite, pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu, tout simplement. Dieu ne pouvant pas faire les choses imparfaitement, puisque cette prière a été composée par Dieu lui-même, elle est donc parfaite. Saint Thomas va cependant distinguer un petit peu les choses, en expliquant que l'autorité du Christ qu'il a composée en est une preuve assurée. Donc, quiconque prie comme il faut exprime de toute nécessité les demandes qu'elle contient, car on y trouve tout ce que nous pouvons désirer et l'ordre dans lequel nous devons les désirer. Donc, ça arrive régulièrement, j'ai encore reçu un magnifique message il n'y a pas longtemps, quelques jours. Personne qui me dit, monsieur l'abbé, je ne sais pas prier, apprenez-moi à prier. Bon. Apprenez-moi à prier. Donc il m'a dit, mais moi, quand je prie, j'essaie de penser au bon Dieu et puis je lui dis un petit peu tous mes problèmes. Et puis, je ne sais pas très bien comment il faut faire ça, ce que je fais bien. Mais en fait, exactement ce qu'il faut. Et je lui dis, je vais donner l'exemple de Saint-Curé d'Ars, qui, vous voyez, je vous l'ai déjà dit souvent, ce vieux paysan qui, tous les matins, passait par l'église avant d'aller au travail dans son champ. Il laissait sa bêche à côté de la porte d'entrée de l'église. Il passait quelques minutes à l'église devant son sacrement en silence et puis repartait. Et un beau jour, le Saint-Curé d'Ars lui a demandé, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous dites au bon Dieu quand vous êtes là? Et l'homme a répondu, je la vise et il m'avise. C'est ça la prière. Hein? Il y a une autre définition, c'est celle du catéchisme, élévation de l'âme vers le bon Dieu pour lui demander tout ce nom, l'adorer, le remercier, lui demander tout ce dont nous avons besoin. Donc il faut, on trouve dans la prière non seulement ce qu'il faut désirer, mais l'ordre dans lequel nous devons le désirer. J'ai déjà expliqué, je crois, la dernière fois, il y a deux cours, que la plupart du temps nous n'obtenons pas ce que nous cherchons dans la prière parce qu'on demande mal, on demande ce qu'il ne faut pas, ou on demande sans prendre les précautions, je dirais, oratoires et les précautions tout simplement de cœur qu'un chrétien doit utiliser avant de parler au bon Dieu. Quand on parle au bon Dieu, on ne commence pas par, tout de suite demander ce qu'on veut. Hein. Je donne souvent comme exemple, parce que ça aide les gens à comprendre ces choses-là. Je donne souvent comme exemple ces petits mots magiques qu'on demande aux enfants. Hein. Et quand il n'y a pas les petits mots magiques, quand ils sont tout le temps, il faut apprendre ça aux enfants dès qu'ils sont 2 ou 3 ans. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, merci, pardon. Bon, des choses comme ça. Eh bien, quand les gens utilisent ces choses-là pour le bon Dieu, c'est ça prier. Prier, c'est tout simplement dire au bon Dieu bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon. Voilà, là, on a toute la prière. Et c'est très important parce qu'il y a des conséquences dans les manques d'éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'apprend plus aux enfants à dire ces choses-là. Mais on ne se rend pas compte qu'en ne donnant plus aux enfants, en apprenant plus aux enfants, ces petits mots magiques, bonjour, bonsoir, etc., eh bien, ils vont devenir incapables de prier. C'est exactement ce qui se passe. Ils sont incapables de prier parce qu'ils n'ont jamais appris la politesse dans les familles. Et donc, reprenons la politesse dans les familles, et à ce moment-là, les gens auront beaucoup plus de facilité à prier. Bon. Il y a une deuxième raison pour laquelle la vie de prière est devenue tellement difficile pour la plupart des gens qui vivent dans le monde, c'est que le respect a disparu. Le respect a totalement disparu, et la prière par rapport à Dieu, c'est la créature qui prie le créateur. Donc, quand une créature se trouve devant le créateur, il se trouve devant quelqu'un qui est infiniment supérieur à lui, et donc il y a un minimum de politesse à utiliser. Et là, c'est la même chose. Non seulement, donc les gens ont du mal à prier parce qu'ils ne connaissent plus les règles de politesse et ne connaissent plus les règles de respect. Et je donne un exemple très très précis parce que pour moi c'est extrêmement important. La disparition pratiquement totale, presque totale, dans certains milieux du vouvoiement. Quand l'église de Vatican II a supprimé le vouvoiement pour remplacer sa porte du tournant, ils savent très bien ce qu'ils font. Parce qu'un des meilleurs moyens pour empêcher les gens d'obtenir de prier le bon Dieu, c'est de leur faire perdre le respect et la politesse qu'il faut pratiquer devant Dieu. Et comment ils font ça? En supprimant le vouvoiement. Et donc, c'est très important ce que je dis, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, c'est que comme les enfants ont perdu complètement l'idée même du vouvoiement, comme bien des cas, surtout s'ils vont dans les écoles modernes, ils ne savent plus utiliser le vouvoiement, donc ils ne savent plus respecter celui qui est au-dessus. Bon, c'est le tutoiement général dans les écoles modernes, tout le monde se tutoie, pourquoi? Parce que tout le monde est égal. Or, si Dieu est notre égal, il n'y a aucune raison de prier. Donc si je considère que Dieu est mon égal, je ne peux pas prier, je suis incapable. Vous voyez, donc on revient aux bases, c'est-à-dire le respect, qui est absolument fondamental, la politesse aussi, et le Notre Père, c'est ça. C'est réapprendre la politesse, réapprendre le respect, pour parler à Dieu comme on parle à quelqu'un qui est notre supérieur. Alors, c'est encore une fois pas pour rien que quand Saint Ignace de Loyola commence les exercices de Saint Ignace, il commence par ça. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Et par cela, sauver son âme. Il y a tout là-dedans. Donc, louer, honorer, servir. Louer, honorer, servir, ça veut dire quoi? Louer, c'est adorer. Honorer, c'est respecter. Servir, c'est obéir. Donc, tout vient du deuxième mot, qui est le mot clé. L'homme a été créé par Dieu. Et parce que l'homme a été créé, l'homme est inférieur, Dieu est au-dessus, Dieu est tout-puissant, l'homme n'a plus rien par lui-même. Donc, Dieu a des droits et l'homme a des devoirs. Et encore une fois, on pourrait faire des comparaisons, parler de ces choses-là pendant des heures. Pourquoi croyez-vous aussi, par exemple, qu'ils poussent tellement sur les droits de l'homme actuellement? Parce que le pape Pie VII l'avait dit déjà, parce qu'il a condamné la déclaration des droits de l'homme de la révolution de 1789. Il disait expressément, les droits de l'homme de 1789, ce ne sont rien d'autre, ce n'est rien d'autre que la négation des droits de Dieu. Et donc, si je mets dans la tête des gens les droits de l'homme, ces gens qui ont emmagasiné, si vous voulez, toutes les hérésies des droits de l'homme, seront incapables de reconnaître les droits de Dieu et donc incapables de prier. Et encore une fois, un des gros obstacles qui fait que les gens ont tellement de mal à prier, c'est la trilogie révolutionnaire maçonnique, liberté, égalité, fraternité. Les gens maintenant sont imprégnés de ces choses-là. On commence à enseigner ça aux enfants à 3 ans dans les écoles maternelles, littéralement. Liberté, égalité, fraternité. Si les enfants sont remplis de ces idées de liberté, égalité, fraternité, je suis libre, on est tous égaux, on est tous frères, comment on est qui prie ? Ils ne peuvent plus prier. C'est impossible. Donc, quand on commence les exercices saint-Ignace, l'école des exercices saint-Ignace, c'est une école magnifique parce que c'est une école qui va réapprendre aux gens à prier. Une école de prière. Dans le programme des exercices saint-Ignace de 2019, je suis en train de préparer, là j'ai mis une note justement là-dessus. Vous voyez ? Retraite en silence pour réapprendre à prier, centrer toute notre vie et toute sa vie sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Et donc, c'est la raison pour laquelle Saint Pie X disait un moderniste est inconvertissable. On peut dire un enfant qui est imprégné des principes révolutionnaires laïques de la Révolution française, qui sont résumés si vous voyez, dans deux choses. D'abord, la liberté, égalité, fraternité, la trilogie maçonnique. Deuxièmement, la déclaration des droits de l'homme. Bon, humainement parlant, je dis bien humainement parlant, est inconvertissable. Brillant tiré. La seule solution pour pouvoir apprendre à ces gens à prier, les remettre dans le droit chemin, commencer à les remettre au début du droit chemin avec la grâce du bon Dieu, c'est qu'ils ils comprennent d'abord que la liberté, l'égalité, la fraternité, ça n'existe pas dans leur sens révolutionnaire, et que les droits de l'homme n'existent pas non plus, on parle des droits de Dieu. Et c'est très étonnant de voir que quand Saint Ignace de Loyola commence ses exercices, il commence par ça, l'homme est créé, il y a tout là-dedans. Si je suis créé, je suis donc dans une situation de dépendance. Moi j'insiste beaucoup quand je prêche le début des exercices qu'on est dans une situation de dépendance. Et là on retrouve encore tout l'opposition à la révolution. L'homme révolutionnaire est dans sa nature même indépendant. L'homme catholique est dans sa nature même dépendant. L'homme révolutionnaire est dans sa nature même quelqu'un qui veut mettre dans sa vie les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité et fraternité. L'homme contre-révolutionnaire, l'homme catholique, est quelqu'un qui veut enlever de son âme et de tout son système, je dirais, intellectuel, les trois notions de liberté, d'égalité et fraternité. Et le problème, c'est que c'est très très difficile parce qu'ils ont compris ça en face bien mieux que nous. Le démon l'a compris et le démon le pousse à longueur de journée. C'est pour ça que maintenant, il commence à changer les lois pour essayer de commencer à mettre les enfants à l'école dès 3 ans, voire même dès 2 ans. On a déjà des projets de loi pour 2 ans, vous vous rendez compte. 2 ans, l'enfant sait à peine marcher. Mais on veut déjà le mettre à l'école pour être sûr que l'enfant, dès 2 ans, apprend des phrases. On va pouvoir mettre, si vous voyez, dans son intelligence des phrases qui sont fausses, mais bien qu'on sache qu'elles sont fausses en tant que révolutionnaires. Les révolutionnaires veulent mettre ces phrases fausses, ces principes faux dans l'âme des enfants, dans l'intelligence des enfants dont ils ont besoin, parce qu'ils savent très bien que si ces fausses idées sont dans les âmes des enfants, à savoir la trilogie maçonnique, liberté, égalité, fraternité et la notion des droits de l'homme, l'enfant est inconvertissable. Et donc, même les parents n'arriveront plus à remettre l'enfant la forme dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on voit la difficulté même les catholiques d'aujourd'hui, qui ont été un peu contaminés par ces idées-là, on a tous été contaminés par ça, la difficulté qu'ils ont de se remettre devant le bon Dieu, tout simplement. Hein. On dit aussi, c'est très vrai, que la première étape pour se faire écouter par le bon Dieu, c'est se mettre à genoux. Donc si je sais me mettre à genoux, je saurai reconnaître par la simple position que je prends, par laquelle je me mets à genoux, je reconnais que je suis inférieur à Dieu, qu'il a donc des droits sur moi. Et là encore une fois, on retrouve dans l'église de Vatican II exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la nouvelle messe? Ils ont supprimé la position à genoux. Pourquoi ils suppriment la position à genoux? Encore une fois, c'est le même principe révolutionnaire, c'est pour essayer de faire croire aux gens que Dieu à qui on parle est notre égal. S'il est notre égal, on ne se met pas à genoux devant lui, parce qu'il est notre égal. Vous voyez comment on ne peut pas remettre, si vous voulez, la cervelle à l'endroit dans les têtes modernes sans commencer par démolir les principes révolutionnaires. C'est ça, laïcisme. Laïcisme, c'est ça. Et donc, un contre-révolutionnaire qui n'a pas compris ces choses-là, c'est de la foutaise. Et c'est ça le drame. Le drame en France, il est là, c'est que, je ne dis pas tous, mais je ne sais pas, 99% des contre-révolutionnaires en France n'ont pas compris ces choses-là et veulent bien être contre-révolutionnaires, dans le sens qu'ils veulent essayer de rétablir un peu les choses qui tiennent la route au niveau de la famille ou de la politique, mais ils veulent baser tout leur action politique sur la trilogie maçonnique, liberté, égalité et fraternité, sur les droits de l'homme. Donc, vous voulez essayer de sauver le pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose pour sauver le pays, abolir liberté, égalité et fraternité, abolir les droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'Église moderne? Qu'est-ce qu'ils font dans la politique moderne? Ils insistent à fond là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'Église de Vatican II? C'est une Église qui est entièrement fondée sur les droits de l'homme. C'est une Église qui est entièrement fondée sur la trilogie révolutionnaire maçonnique. C'est pour ça que le meilleur ami certainement de Macron, c'est Bergoglio. Pourquoi? Parce qu'ils ont exactement les mêmes conceptions de la vie. Résultat des courses, mais les gens s'aiment. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre, à mon avis, notre Père. Mais notre Père, par le premier mot, notre Père, met déjà les choses là où il faut les placer. Qui dit Père, dit Fils. Qui dit Père, dit quelqu'un qui m'a donné la vie, à qui je dois tout, parce qu'il est mon Père, et donc il est au-dessus. Vous voyez ? S'il est Père, je suis Fils, donc on est inégaux. S'il est Père, je suis Fils, il donne des ordres et j'obéis, donc je ne suis pas libre de faire ce que je veux. S'il est Père, je suis Fils, donc il n'y a pas la fraternité révolutionnaire. Oui, c'est tout comme ça. Alors, c'est là ce que dit saint Thomas. Donc, il faut donc... Notre Père va nous expliquer d'abord ce qu'il faut désirer, comment le désirer, et l'ordre dans lequel nous devons le désirer. Alors... Nous souhaitons d'abord notre fin et ensuite les moyens d'y arriver. Notre fin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, les moyens d'y arriver, c'est le chemin que nous devons prendre pour aller vers le grand Dieu. On voit très bien que pour comprendre ce que saint Thomas va essayer d'expliquer, il faut aussi comprendre ce qu'est la vraie liberté et la fausse liberté. La fausse liberté, c'est la liberté révolutionnaire, je fais ce que je veux. La liberté catholique, c'est le droit, le pouvoir que j'ai de choisir parmi les moyens qui sont à ma disposition pour atteindre une fin qui m'est imposée. Donc, le catholique est libre dans la mesure où il a une fin qui lui est imposée par Dieu, il doit sauver son âme, il est libre de choisir les moyens pour y arriver. De prendre tel chemin pour arriver au ciel, il peut se marier et fonder une famille pour aller au ciel, il peut devenir prêtre, il peut faire d'autres choses. À partir du moment où il a une liberté, la véritable liberté des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est le choix des moyens. Et le révolutionnaire dit, la liberté du révolutionnaire, c'est le choix de la fin. Alors on pourrait continuer d'expliquer tout ça pendant des heures, parce que c'est aussi toute la différence qui existe entre la philosophie d'Emmanuel Kant et la philosophie de saint Thomas d'Aquin. La philosophie de saint Thomas d'Aquin, c'est quoi? C'est l'objectivisme. L'objectivisme, c'est quoi? C'est mon intelligence qui va se soumettre à un objet extérieur. Mon intelligence qui se soumet à l'intelligence divine. Au contraire, la philosophie d'Emmanuel Kant, qui est le père du subjectivisme, donc au lieu de l'objectivisme de saint Thomas d'Aquin, qui soumet en quelque sorte, qui oblige littéralement toutes les intelligences à se soumettre à un objet extérieur qui est Dieu, Emmanuel Kant, donc, il est mort en 1802 ou 1804, Emmanuel Kant va inverser les choses, c'est ce qu'on appelle le subjectivisme, c'est Dieu qui se soumet à l'homme, l'objet qui se soumet au sujet, le sujet devient premier, subjectivisme. C'est ça, c'est le laïcisme. Et donc, ça aide peut-être les gens un peu à comprendre que pour pouvoir remettre la foi dans les cœurs, il faut commencer par remettre le cerveau à un endroit. Tant que les gens n'ont pas appris à penser droit, on n'y arrive pas. C'est ce que nous disait Monseigneur au début du séminaire. Il nous avait dit, il faut d'abord, le premier rôle du prêtre, ça sera de réapprendre aux gens à penser droit. Donc voilà ce que dit ici saint Thomas d'Aquin. Notre fin, c'est Dieu, vers lequel notre cœur s'élève de deux manières. En voulant sa gloire, ce qui revient à l'aimer pour lui-même, et en désirant la posséder, ce qui rentre dans la charité par laquelle nous aimons en Dieu. Bon. C'est pas simplement aimer Dieu, mais aimer Dieu de telle façon que nous voulons aussi que le prochain puisse aimer Dieu. Donc, notre fin, c'est Dieu, mais ce n'est pas simplement notre fin à nous, c'est aussi la fin du prochain. Bon, que ça nous plaise ou non, il y a des gens qui n'acceptent pas, mais que ça vous plaise ou non, on a tous la même fin, parce qu'on a tous été créés par le même Dieu. C'est très très difficile d'arriver à expliquer ces choses-là à des gens qui ont une cervelle qui est montée à l'envers. Les gens qu'on a vus hier, c'était comme ça. C'était des gens qui sont inconvertissables parce qu'ils ont, l'idée que chacun fait sa vérité. À chacun sa vérité, bon, puisque toutes les religions se battent les unes contre les autres, plus ou moins, donc c'est qu'il n'y a aucune religion qui est bonne, à chacun fait la sienne. Bon. Et bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, tout tient dans le premier mot, c'est pour ça que notre Seigneur commence par ça, notre Père. On dit que Sainte Thérèse d'Avila, je l'ai déjà dit, Sainte Thérèse d'Avila, elle partait en extase simplement en disant le premier mot du Notre Père. Elle n'a même pas fini en Notre Père, parce qu'elle partait en extase. Notre Père, elle montait en extase littéralement. Bon, nous, on n'est pas comme ça, malheureusement. Moi, je peux dire Notre Père la fois, je ne monte pas en lévitation, malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Hein, mais vous voyez, c'est capital. Et là, encore une fois, pour résumer tout ce que je viens de dire, on voit très bien que la fondation de toute forme de prière, quelle qu'il soit, c'est l'humilité. Alors qu'au contraire, la formation de toute forme, de toute intelligence révolutionnaire, c'est l'orgueil. Et c'est ça le drame dans les écoles, c'est qu'on on nourrit les âmes des enfants avec des quantités d'orgueil absolument invraisemblables. Et là, il faudrait parler pendant des heures aussi sur l'importance des ordinateurs, des écrans, tout ça, qui donnent une espèce de fausse confiance en eux-mêmes à ces enfants qui ont l'impression de tout savoir parce qu'ils ont un ordinateur entre les pattes. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. En voulant sa gloire, donc notre fin c'est Dieu vers lequel notre cœur s'élève de deux manières, en voulant sa gloire, ce qui revient à l'aimer pour lui-même, et en désirant la posséder, ce qui rentre dans la charité par laquelle nous nous aimons en Dieu. N'oublions pas que la charité dont parle ici saint Thomas d'Aquin, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas contrairement à ce que beaucoup de gens croient dans le monde mondial, c'est pas une espèce d'amour vague du bon Dieu. Qui aime Dieu, celui qui prétend aimer Dieu et qui ne suit pas ses commandements est un menteur, dit saint Jean. Donc aimer Dieu, ça veut dire suivre ses commandements. Donc si je ne suis pas les commandements de Dieu, je n'aime pas. Non. Au désir de voir éclater la gloire de Dieu correspond cette première demande, que votre nom soit sanctifié. À celui de la posséder répond la deuxième, que votre règne arrive. Donc c'est le début de notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, sous la terre comme au ciel. Et donc les trois premières demandes vont correspondre, vont avoir Dieu directement pour objet. Voilà. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Et après, les choses vont, la deuxième partie de notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Là, on s'adresse, la prière s'adresse aussi à... Non, après s'être adressé à Dieu, la prière va demander à Dieu ce que nous avons besoin, nous, pour notre vie de tous les jours. D'accord ? Donc on voit très bien l'ordre que notre Seigneur Jésus-Christ met dans la prière qu'il donne aux apôtres. Dieu, premier, servir. Donc, notre Père commence par « Notre Père, donnez-nous notre pain de chaque jour. » Ça, c'est la prière moderne. Mon Dieu, donnez-moi du pain. Mon Dieu, donnez-moi de l'argent. Mon Dieu, donnez-moi un travail. Mon Dieu, donnez-moi un examen. Mon Dieu, donnez-moi ça, donnez-moi ci, et ça, et tout de suite. Et c'est pas comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ apprend à prier. Mon Dieu, notre Père qui êtes aux cieux. On rappelle d'abord qu'il est Dieu, qu'il est Père et qu'il est aux cieux. Donc un Père divin qui est aux cieux, qui des cieux nous contemple, nous ses créatures. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Donc on commence par s'incliner devant Dieu, se mettre en adoration devant Dieu. On ne peut pas dire ces trois premières, proférer ces trois premières demandes sans se mettre à genoux, c'est impossible. On se met à genoux immédiatement quand on dit que votre nom soit sanctifié. Ça veut dire que votre nom soit adoré, c'est ça que ça veut dire, sanctifié. Que votre volonté soit faite, que votre règne arrive, que votre nom, volonté, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Quand on dit que votre volonté soit faite, on ne va pas toiser notre Seigneur Jésus-Christ du haut de sa grandeur en disant que votre volonté soit faite à condition qu'elle corresponde à la mienne. C'est pas ça la prière. Vous voyez ? Donc on voit très bien qu'il y a un ordre. Dieu, premier servi, donc les trois premières demandes du Pater, du Notre Père, et ensuite, mettons Dieu dans notre vie de tous les jours et demandons-lui, bien sûr, les choses dont nous avons besoin, si on a le droit de le faire. Alors, demander le pain naturel, Et puis le pain supernaturel, le pain eucharistique, on va voir tout ça. Alors, si on expliquait un petit peu tout ça, voilà ce que dit, je donne le texte exactement. Quand il y a une telle richesse dans ce texte qu'on pourrait expliquer pendant des heures, hein. Je vais essayer de simplifier un petit peu. Donc, d'abord notre fin, dit saint Thomas, c'est Dieu. Ça, c'est trois premières phrases du Notre Père. Puis, deuxième chose, les moyens. Les moyens pour arriver à cette fin. Bon, j'ai besoin de la vie pour adorer Dieu. La première condition pour adorer Dieu, c'est de vivre. Si on est mort, on ne peut plus adorer Dieu. Bon, au moins ici-bas. Donc, pour adorer Dieu, j'ai besoin d'être vivant. Pour être vivant, j'ai besoin d'avoir quelque chose à manger. Si j'ai rien à manger, je vais mourir. Et si je suis mort, je peux au moins. Donc je suis sur la terre ici-bas, je ne peux rien faire. Donc, la fin ne justifie pas les moyens. On soumet les moyens à la fin. La fin, c'est Dieu. Donc, on a le droit de demander des choses matérielles. Par exemple, le pain. Par exemple, les choses matérielles dont j'ai besoin pour pouvoir faire vivre ma famille. Mais tout ça doit être sous-tendu à Dieu lui-même. Le pain, oui, si ce pain m'aide à adorer Dieu. Si le pain devient pour moi un obstacle qui m'empêche d'adorer Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois, on retrouve le début des exercices de Saint Ignace, utiliser les créatures, le pain c'est une créature, dans la mesure où ces créatures nous aident à atteindre la fin pour laquelle on a été créé Dieu. Donc la fin d'abord, les moyens après. Que dit ici saint Thomas, les demandes qui suivent, donc les demandes 4, 5, 6 et 7, en rapport aux moyens propres à nous conduire directement et indirectement à notre fin. Les moyens principaux directs sont l'obéissance à la volonté de Dieu, donc que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc ça c'est une espèce de jonction entre Dieu et la créature, mais c'est encore plutôt dans ce qui concerne la fin, d'accord ? Je dis les trois choses qui concernent la fin pour laquelle nous sommes sur la terre, Dieu, c'est les trois premières demandes. Donc, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les premières paroles de notre Père, notre Père qui êtes aux cieux, c'est pas une demande ça. La demande elle commence après. Notre Père qui êtes aux cieux, ça c'est l'introduction. Donc, on arrive devant Dieu, et genou à terre, on embrasse le sol, et puis on dit, Seigneur, vous êtes mon tout, je ne suis rien. Vous êtes la voie, la vérité, la vie, je ne suis rien. Et après, on adore. Une fois qu'on a reconnu son néant devant Dieu, à ce moment-là, on peut commencer par adorer Dieu, marquer cette adoration à Dieu par les trois premières demandes, et ensuite les moyens. Le secours nécessaire pour mériter le ciel est à ce moment-là demandé, auquel revient la quatrième demande, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Puis les moyens directs et secondaires se résument dans l'éloignement des obstacles qui pourraient nous écarter du ciel. Donc on n'oublie pas que j'ai été créé pour le ciel. Donc même si je demande la nourriture corporelle, je pense que la nourriture, j'oublie pas que la nourriture corporelle que je demande, elle m'est donnée pour atteindre le ciel, non pas pour faire ce que je veux. Donc les moyens directs et secondaires se résument donc dans l'éloignement des obstacles qui pourraient nous écarter du ciel. Quelles sont les choses qui vont m'éloigner du ciel, de la route du ciel? Le péché, les tentations, les peines. Donc vous avez les trois dernières demandes du Pater. Donc trois premières demandes du Pater qui regarde Dieu, la fin, puis la demande du pain pour pouvoir justement utiliser notre corps au service de l'âme, et enfin on demande au bon Dieu de nous préserver des trois choses qui nous empêchent de rester sur le chemin qui mène au bon Dieu: le péché, la tentation, les peines. Le péché, c'est donc là il y a un texte de saint Thomas, ces obstacles, dit saint Thomas, sont au nombre de trois. Le premier, le péché, conformément ici de saint Paul, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les sacrilèges ne posséderont le royaume des cieux. Donc c'est la cinquième demande. Le péché est un obstacle, ou qu'est-ce qu'on demande? Pardonnez-nous nos péchés. Pardonnez-nous nos offenses. Pardonnez-nous nos péchés, c'est la même chose. Bon, deuxième chose, c'est la tentation. La tentation qui nous empêche d'accomplir la volonté divine. Dans la mesure que la tentation, quelqu'un se met comme ça, un courant qui rabat toujours le navire vers les récifs. C'est la tentation. Donc, la tentation, elle est là, donc on demande au bon Dieu la grâce de ne pas succomber à la tentation. Donc le deuxième, c'est la tentation qui empêche d'accomplir la volonté divine, et c'est à elle que se rattache la sixième demande, ne nous induisez pas en tentation. Il faut comprendre exactement le sens des mots, donc saint Thomas a expliqué déjà dans les sermons que j'ai expliqué la dernière fois, ne nous induisez pas en tentation, ça veut dire ne permettez pas que je sois débordé par la tentation. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la chose. Ne nous induisez pas en tentation. Dieu, directement, ne veut pas le mal, mais il permet le mal pour un plus grand bien. Dieu est l'unique, étant Dieu, la seule personne qui a le droit d'utiliser, je dirais, un mal pour obtenir un bien. Nous, on ne peut pas faire ça, parce que nous sommes des créatures. Dieu va permettre, c'est pas dire qu'il veut un mal, il va permettre le mal pour obtenir un bien. Par exemple, l'exemple que donne saint Thomas d'Aquin, donc ailleurs dans la Somme, Dieu permet les persécuteurs pour qu'il y ait des martyrs. Et les martyrs ont un degré de gloire incroyable aussi, parce qu'ils meurent justement dans un acte de charité parfaite. Mais il n'y aurait pas eu les persécuteurs, mais il n'y aurait pas eu de martyrs. Donc Dieu peut, il ne veut pas les persécuteurs. Il permet les persécuteurs pour obtenir des martyrs. Mais c'est la même chose avec la tentation. Dieu ne veut pas en tant que tel la tentation. Il veut que son soldat devienne de plus en plus fort. Et comme le soldat, nous sommes des soldats de Dieu, le soldat ne va pas devenir de plus en plus fort sans être acculé aux tentations, c'est comme ça qu'un soldat va apprendre à se battre contre les tentations. Et le bon Dieu permet des tentations, et on dit même qu'il y a des tentations qui sont ce qu'on appelle la tentation d'épreuve, une tentation qui est permise par le bon Dieu. La tentation qui est permise par le bon Dieu, d'un certain côté, elle est voulue par Dieu. Il faut comprendre le terme, il ne faut pas comprendre ça de travers. Rappelez-vous Saint Paul qui trois fois demande à notre Seigneur d'être libéré de la tentation. Dieu lui répond, ma grâce te suffit. En disant ça, ma grâce te suffit, bon, ça ne veut pas dire que Dieu veut la tentation pour faire tomber saint Paul, pas du tout. En fait, c'est l'inverse. Dieu veut permet la tentation pour que saint Paul devienne un grand saint. Et si saint Paul n'avait pas eu à lutter contre cette tentation, cet aiguillon dans la chair dont il parle pendant toute sa vie, il ne serait pas devenu saint Paul. Donc, par le mal qui représentait la tentation, l'aiguillon de la chair, Dieu a permis la sainteté de saint Paul. Permettant la sainteté de saint Paul, Dieu a permis la conversion de millions d'âmes. Alors, on dit que saint Paul est le plus grand des missionnaires, d'un certain côté c'est vrai. Bon, quand on voit tous ses voyages apostoliques, c'est pour ça qu'il est associé à saint Pierre, c'est pas rien. Saint Pierre c'est le premier pape. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit à saint Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais l'église associe toujours saint Paul à saint Pierre. Il n'y a pas une seule fête de Saint-Pierre où il n'y a pas l'oraison de Saint-Paul. Et il n'y a pas une seule fête de Saint-Paul où il n'y a pas l'oraison de Saint-Pierre. Donc le 29 juin, qui est la grande fête de la fondation de l'Église, on peut dire dans ce sens-là, ce n'est pas la fête de Saint-Pierre, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et à chaque fois que vous avez une fête où honorant par exemple Saint-Paul ou Saint-Pierre, dans la fête de Saint-Pierre Orléliens, c'est en français, on dit ça. Saint-Pierre-Aulien, voilà, c'est quoi c'est le terme que je cherchais. Saint-Pierre-Aulien, donc en fait, une partie historique de la vie de Saint-Pierre, quand il a été avec le miracle des chaînes qui ont retenu Saint-Pierre et qui ont été retrouvées, eh bien, quand on a la messe de Saint-Pierre-Aulien, il y a une oraison de Saint-Paul. Tu vois, parce qu'on ne sépare jamais les choses. Oui, donc, la tentation, encore une fois, il faut bien comprendre le terme, ne nous induisez pas en tentation, ça ne veut pas dire que la tentation vient de Dieu directement. La tentation est permise par Dieu et d'un certain côté est voulue par Dieu parce que la tentation peut devenir le moyen de sanctification d'une autre personne. D'accord ? Troisième obstacle, les peines. Hein ? D'où la septième et dernière demande, délivrez-nous du mal. Donc vous voyez, pour résumer, les sept demandes du Pater, du Notre Père. Donc on commence, encore une fois, je résume tout ce que je viens de dire, on commence par une prière d'introduction, d'adoration devant Dieu, Notre Père qui êtes aux cieux, à qui on parle à Dieu qui est notre Père. Ensuite, parce qu'il est Dieu, on marque son adoration par les trois premières demandes, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, j'ai un corps qui est lié à mon âme, donc j'ai besoin d'une nourriture pour mon corps. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et pour que je puisse me nourrir substantiellement dans mon corps et dans mon âme, donc on va expliquer le pain substantiel, le pain naturel, le pain qui correspond à la farine broyée et montée en pain, et le pain eucharistique, la nourriture eucharistique, eh bien, Ce sont les deux moyens de monter le corps et l'âme vers le bon Dieu. Le pain naturel pour monter le corps, le pain eucharistique pour monter l'âme. Et donc, dernière partie, les trois dernières parties de la, les trois dernières demandes du pater, les obstacles à enlever. Pour pouvoir aller au ciel, il faut enlever les obstacles. Donc, les tentations, le péché, les tentations, les peines. D'accord ? Et donc là, vous avez tout. Alors, on peut avant d'expliquer tout ça un peu mieux, vous avez le texte donc en bas de la page 101. Je le trouve là dans mes papiers. En bas de la page 101, voilà ce que dit saint Thomas. L'oraison dominicale est absolument parfaite. Je relis le texte, parce qu'il y a parfois des variantes dans ce que j'écris. J'écris là, et les textes qu'on a dans le résumé donné par Monseigneur Le Breton. L'oraison dominicale est absolument parfaite. La prière du Seigneur non seulement demande tout ce que nous sommes en droit de désirer, mais elle le fait dans l'ordre même, j'ai déjà cité ce texte, où l'on doit la désirer, si bien qu'elle nous enseigne pas simplement à demander, mais à régler tous nos sentiments. S'il n'y a pas simplement à demander, mais à bien demander. En soumettant nos passions à notre volonté, la volonté à l'intelligence, l'intelligence à Dieu. Donc, il est clair, vous avez, encore une fois, résumé tout ça, page 102. Il est clair donc que notre désir porte particulièrement premièrement sur la fin, en second lieu sur les moyens de l'atteindre. Les moyens sont soumis à la fin. Bon. Et encore une fois, on voit bien tout le travail de la révolution. L'Église catholique dit les moyens sont soumis à la fin. La révolution dit la fin, les moyens deviennent notre fin. À savoir que du moment qu'un moyen fonctionne, on l'utilise, même s'il n'est pas soumis à une fin. Le travail de la révolution, c'est de couper les moyens à la fin. De couper l'intelligence de son objet, couper la volonté de son objet. Qui est l'objet de l'intelligence? Le vrai. Donc le révolutionnaire veut bien utiliser son intelligence à condition qu'il ne soit pas obligé de suivre, d'utiliser les règles de le mode d'emploi donné par Dieu pour son intelligence. Donc, une intelligence du révolutionnaire, oui, à condition que je ne sois pas soumis au vrai. Je soumets le vrai à mon intelligence, donc mon intelligence fait le vrai. Pourquoi? Parce que mon intelligence est divine. La révolution, c'est ça. La révolution, c'est tout simplement la divinisation de l'homme. C'est la révolution de 1789, divinisation de l'homme. L'institution de la trilogie maçonnique, liberté, égalité, fraternité, divinisation de l'homme. Instauration des droits de l'homme, c'est pareil, on retrouve à chaque fois divinisation de l'homme. L'homme devient Dieu. L'homme prend la place de Dieu. Pour la grande définition de Mgr Gaume, il définit la révolution en disant « haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme droit à Dieu tout ensemble. » Donc la révolution, c'est la haine de Dieu qui donne des ordres à l'homme. Haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tous ensemble. Ça veut dire la révolution prône la divinisation de l'homme. Et Mgr Lefebvre, il y a un autre terme que j'aimais bien, il expliquait ça en disant « la révolution, c'est la démocratisation ». La démocratisation qui est introduite. L'Église moderne, c'est la démocratisation de l'Église catholique. La vérité ne vient plus d'en haut, elle vient de la base. C'est plus Dieu qui commande, c'est l'homme qui commande et l'homme qui se fait Dieu. Donc c'est l'orgueil avec un grand O, si vous voulez. On ne peut plus rien faire avec des idées pareilles. Et c'est ça le drame, c'est que quand ces idées se rentrent dans les cerveaux, c'est fini. Humainement parlant, on ne peut plus rien faire. Bon, de temps en temps, le bon Dieu peut prendre un gros gourdin, taper dessus. D'une façon ou d'une autre, de façon humaine de temps en temps, de façon divine quand il veut, c'est comme ça. Mais tant que les hommes pensent avec une intelligence qui est complètement déformée, qui refuse d'être utilisée selon le mode d'emploi de Dieu, qu'est-ce qu'on fasse? On ne peut rien faire. Oui. Alors, donc vous avez, je vais tout recommencer, vous avez tout là-dessus. Donc d'abord la fin. Notre fin, c'est Dieu, vers qui le mouvement de notre cœur tend à double titre. Nous voulons sa gloire et nous voulons jouir de cette gloire. D'accord ? Donc, c'est les premières demandes. Pour atteindre cette fin, il y a deux sortes de moyens. Les uns nous y mènent essentiellement, les autres accidentellement. Bon. De façon directe et principale, c'est une demande qui est intermédiaire entre la fin et les moyens. On peut dire que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis ensuite, les moyens, nous demandons ce qui nous sert à titre d'instrument et vient en quelque sorte coopérer à notre action, notre activité méritoire. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, saint Thomas va expliquer, donc il y a deux façons de comprendre ce pain. soit on l'entend du pain sacramentel, pain sacramentel, c'est la Sainte Eucharistie, dont l'usage quotidien est avantageux pour l'homme, et dans lequel on comprend tous les autres sacrements. Pourquoi ? Parce que donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ça veut dire donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien à nous qui sommes créés, homme, corps et âme. Donc donnez-nous notre pain quotidien pour nourrir notre corps et pour nourrir notre âme. Le pain sacramentel, donc la Sainte Eucharistie pour nourrir l'âme, le pain naturel pour nourrir le corps. Vous voyez ? On peut aussi entendre du pain corporel, on doit l'entendre aussi du pain corporel, par quoi l'on entend toutes les nécessités de la vie selon saint Augustin. Donc ce n'est pas simplement le pain à manger, c'est toutes les choses matérielles dont nous avons besoin. Hein? C'est ce que dit notre Seigneur dans ce discours sur la montagne, cherchez d'abord Dieu et tout le reste vous sera donné par ce fruit. Ça c'est Dieu et sa justice, ça c'est la loi du bon Dieu, et tout le reste vous sera donné par justice, par ce croix. Et toutes les choses matérielles dont vous avez besoin pour nourrir votre corps vous seront aussi données. Il faut d'abord s'occuper de l'âme. Bon. Et le rationalisme, si le drame du rationalisme, c'est ça, c'est de vouloir absolument empêcher l'âme de s'élever vers le bon Dieu. En gros, on veut bien que l'oiseau vole à condition qu'il y ait un fil à la patte pour l'empêcher de voler trop haut. Ça rationalise. La raison s'arrête. La raison dirige tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Par exemple, quand on dit, souvent c'était ça comme exemple, quand on dit je reconnais Dieu comme le grand architecte de l'univers. Bon, faire attention encore une fois à ce qu'on dit. On a parfois des réactions un peu stupides de paroissiens qui nous disent vous dites une hérésie. Mais non, c'est pas une hérésie. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi le grand architecte de l'univers parce qu'il est Dieu. Mais le drame, c'est de vouloir s'arrêter à notre Seigneur Jésus-Christ comme grand maître, comme grand architecte de l'univers. Quand les présidents américains, suivant l'esprit américain, disent « In God we trust bon, », j'ai confiance en Dieu, c'est de quel Dieu il parle. Il parle uniquement du grand architecte de l'univers, mais ils ne veulent pas, en quelque sorte, dépasser ces choses-là. Mais il faut quand même avouer une chose, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça, il est quand même mieux de dire je crois en Dieu, grand architecte de l'univers, que de dire Dieu n'existe pas. D'accord ? Le gouvernement en France, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu n'existe pas, c'est laïcisme. Le laïcisme, c'est Dieu n'existe pas dans la vie publique. Système américain, Dieu existe dans la vie publique, mais uniquement comme grand architecte de l'univers. C'est quand même un peu mieux par rapport au laïcisme pur. Maintenant, c'est insuffisant. Il faut monter au troisième degré. Le troisième degré, c'est justement la vie surnaturelle. D'accord ? Donc, l'Eucharistie, donc quand, c'est ce que dit Saint Thomas d'Aquin, quand il parle, il explique la demande du Père, de notre Père, donnez-nous notre pain quotidien, c'est pas simplement le pain quotidien pour le corps, c'est le pain quotidien pour les deux, l'homme, l'âme et le corps. Donc, quand il parle de pain quotidien pour le corps, c'est pain quotidien, ce pain quotidien représente toutes les choses naturelles dont on a besoin. D'accord ? Fermez la fenêtre, là, parce que... Il y a le papillon qui rentre. Attendez. On voit très bien quand on étudie un peu cette page magnifique de saint Thomas, que cette espèce de simplicité extraordinaire de saint Thomas. Et pour expliquer quelques lignes de saint Thomas, il faut déjà un laïus énorme. Pourquoi ? Parce que saint Thomas, je pense que la caractéristique de saint Thomas, c'est l'esprit de synthèse. C'est là qu'on parle de la synthèse thomistienne. Le plus beau livre de Garrigou Lagrange, j'ai pas Garrigou Lagrange, c'est la synthèse thomiste. Il a l'esprit de synthèse. Saint Thomas avait un don pour simplifier les choses compliquées et en quelque sorte réduire les choses les plus compliquées en quelques formules toutes simples qui expliquent tout. L'homme moderne, il fait exactement le contraire. Il complique les choses simples. Et c'est un laïus, un laïus, un laïus. On parle, on ne dit rien. Saint Thomas d'Aquin, c'est tout le contraire. Donc, je répète, l'Eucharistie, dit saint Thomas, est en effet le premier des sacrements et le pain est l'aliment fondamental. Donc, l'Eucharistie pour l'âme, le pain pour le corps. Mais quand il parle d'Eucharistie, en fait, c'est pas simplement, dit saint Thomas, dit saint Augustin, c'est pas simplement le sacrement de la Sainte Eucharistie, c'est tout le sacrement. Donc on n'a pas besoin simplement de l'Eucharistie pour aller à Dieu, Et donc, il y en a trois, on a besoin de tous les sacrements. Donc, c'est à la fois le baptême, c'est la Sainte Eucharistie, c'est la pénitence, c'est l'extrême onction, etc. D'accord ? C'est ce qu'indique le texte de Saint-Ignace, de Saint-Matthieu, pardon, qui porte supersubstantiel, c'est-à-dire principal, d'après l'exégèse de Saint-Jérôme. Donc, plusieurs façons de traduire ce terme de notre Seigneur. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Certaines traductions anciennes disent notre pain supersubstantiel. Il y a le pain principal, dit Saint-Jérôme. Après, il faut supprimer les obstacles, donc c'est page 102 sur le polycopier au milieu de la page. Le péché, la tentation, les peines de la vie présente. Le péché, j'ai déjà expliqué. Donc, ces textes de Saint Paul, ni les fornicateurs, ni ceux qui servent les idoles ne posséderont le royaume de Dieu. Remettez-nous nos dettes. Bon, en français, on dit pardonnez-nous nos offenses. Bon, c'est le péché. L'offense est le péché. Ensuite, la tentation, qui nous empêche de respecter la volonté divine. Dans le sens que tentation, là, qu'est-ce qui nous empêche de respecter la volonté divine ? Ce n'est pas la tentation en tant que telle qui nous empêche de respecter la volonté divine. Saint Paul a suivi la volonté du bon Dieu, il a été tenté. Qu'est-ce qui va nous empêcher de respecter la volonté divine ? C'est d'accepter la tentation, tomber la tentation. La tentation en tant que telle, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. C'est pour ça que quand on dit « enlevez-moi toutes les tentations », non, c'est pour ça qu'il faut demander. Donnez-moi la force de résister à ces tentations parce que j'ai besoin de ces tentations pour me rappeler que je ne suis pas Dieu moi-même. Et regardez la formule actuelle, ne jamais mourir, jamais souffrir, c'est ça. Et qu'il y ait le moins de petits bobos, tout de suite supprimer tout ça. Plus de douleur, plus de douleur, plus de douleur, on ne souffre pas, on ne meurt jamais. Ben non, la souffrance est souvent nécessaire. Le bon Dieu ne veut pas le cancer. Le cancer en tant que tel, est-ce que c'est une mauvaise chose ? En soi, oui. Accidentellement, non. Parce que le cancer a peut-être ramené un pécheur qui vivait dans le péché jusqu'au cou depuis des années et des années. Il se retrouve sur une table d'opération avec un cancer qui aurait broyé son corps. Et bien, dans sa chambre d'hôpital, après l'opération qu'il n'a rien pu faire, il a commencé à réfléchir. Ça a peut-être l'amené à penser qu'il a une âme, qu'il doit sauver son âme, qu'il y a un bon Dieu au-dessus qu'il a créé. Et donc, cette personne, grâce au cancer, va aller demander l'aide du prêtre, va demander l'absolution, va changer de vie. Et il va mourir dans la paix du bon Dieu. Il n'aurait pas eu le cancer, il n'a rien en enfer. Donc, le cancer en tant que tel, dans ce cas précis, c'est quelque chose de bon. C'est pareil pour la tentation. Mais la tentation par rapport à l'âme, si vous voulez, ça correspond, on peut dire, à la maladie par rapport au corps. Donc, les tentations ne sont pas forcément mauvaises. C'est ça quand les gens se. Parfois, en disant, qu'est-ce que c'est que cette prière ? Ne soumet pas à la tentation. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que le bon Dieu soumet à la tentation ? Dans certains cas, oui. Dans le sens qu'il permet la tentation pour nous rendre forts. Comme un soldat, il est toujours bon soldat, mais en temps de paix. Alors, est-ce que le bon Dieu veut la guerre ? Non. Mais pendant la guerre, on va voir où sont les bons soldats. Donc, le bon Dieu permet la guerre pour aguerrir le bon soldat. Oui, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Donc, deuxième obstacle, premier obstacle, le péché, deuxième obstacle, la tentation, troisième obstacle, les peines de la vie présente. D'accord ? Donc, nous excitons en nous, donc les peines de la vie présente, c'est la formule « délivrez-nous du mal ». D'accord ? Donc, la tentation, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Par quoi nous demandons non de n'être pas tenté, mais de n'être pas vaincu par la tentation. Donc ne nous laissez pas succomber à la tentation. C'est mon Dieu, si vous, il est dans votre volonté que je sois tenté, ne permettez pas que je succombe à cette tentation. Et non pas, ne permettez pas que je sois soumis à la tentation. Dans le monde moderne, dans l'Église moderne, il voudrait que l'homme ne soit plus tenté du tout. Supprimer, oh mon Dieu, toutes les tentations. D'abord, l'homme est devenu Dieu, donc il n'y a aucune raison que l'homme soit tenté. L'Église catholique ne demande pas ça, permet, les tentations ne sont pas bonnes en tant que telles, elles sont permises par le bon Dieu pour justement sanctifier l'âme. D'accord ? Alors, donc en bas de la page 102, nous excitons en nous le désir de ce règne, qu'il vienne pour nous et que nous puissions y régner. Quant à ces paroles, que votre volonté soit faite, elles signifient à juste titre qu'on obéisse à vos commandements. Sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire aussi bien de la part des hommes que des anges. Sur la terre comme au ciel, ça veut dire toute la création doit être soumise au bon Dieu. C'est la magnifique phrase de Saint Paul, qui dans l'épître de Saint Paul aux Philippiens, Dieu a donné un nom au-dessus de tout nom, pour que tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Au ciel les anges, sur la terre les hommes, dans les enfers les démons. Donc, tout le monde est soumis à la volonté du bon Dieu. Il y en a qui sont soumis de façon parfaite, les anges, les bons anges. Il y en a qui sont soumis de façon imparfaite parce que malheureusement ils ont l'usage de leur volonté qui va leur permettre, hélas, de dire non au bon Dieu. Et puis il y a ceux qui sont complètement soumis au bon Dieu et qui ne peuvent plus rien faire, c'est les démons. Les démons ne peuvent plus changer. Le démon ne peut plus dire au bon Dieu je suis désolé de ce que j'ai fait, je regrette, je demande pardon, parce qu'encore une fois, il a une intelligence par intuition, il ne peut plus demander, il ne peut plus rien, il ne peut plus changer parce qu'il n'est plus dans le temps, il est dans l'éternité. D'accord ? Alors. Donc ces trois demandes seront parfaitement accomplies dans la vie future. Les quatre autres sont relatives aux besoins de la vie présente. Vous voyez ? Donc cette prière de notre Père explique parfaitement les besoins du corps et les besoins de l'âme. Alors, voyons un petit peu les résumés ici qui est bien mis dans le résumé que je suis du Père Le Breton, de l'abbé, c'est pas monseigneur, il est abbé, je pensais qu'il était monseigneur, mais abbé Frédéric Le Breton, la petite somme théologique, donc les différentes demandes. Première demande, que votre nom soit sanctifié, ça veut dire que votre nom soit connu, aimé et reconnu comme saint par tout le genre humain. Saint Thérèse d'Avila, mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu. Donc il faut que notre Seigneur soit connu pour aimer. Vous voyez, et on voit très bien, dans le droit canonique de l'Église, celui préparé par Saint Pédis, publié en 1917, juste après la mort de Saint Pédis, on voit justement comment l'Église insiste sur la nécessité pour le curé d'enseigner le catéchisme. Et le droit canon dit enseigner le catéchisme aux enfants et aux adultes. Ce qui n'est pratiquement jamais fait. Pas simplement l'enseignement des enfants, mais l'enseignement des adultes. Ensuite, que votre règne arrive. Donc, c'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Régnez en nous et faites-nous régner avec vous. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, on ne demande pas simplement que le règne arrive au ciel. Parce qu'il est évident que le règne du bon Dieu, il existe au ciel, puisqu'au ciel, il n'y a plus d'obstacle. Au ciel, il n'y a ni tentation, ni péché, ni peine. Donc, il n'y a pas de problème. Au ciel, tout marche comme sur des roulettes. Le bon Dieu demande, nous fait demander, quand on dit que votre règne arrive, c'est que votre règne arrive aussi ici-bas. C'est ça qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le moins important, c'est le deuxième, règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la formule catholique, que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans la société. Et donc, on travaille en tant que prêtre, en tant qu'évêque, en tant que pape, les religieux, l'église enseignante, si vous voulez, pour simplifier, va enseigner justement l'église catholique, les demandes de l'église catholique, pour obtenir que la société tout entière jouisse de la paix ici-bas en suivant notre Seigneur Jésus-Christ. Si la société d'ici-bas suit le démon, c'est la guerre. Voilà, c'est ça le règne social de notre Seigneur. Et puis 11, donc, il faut relire, on va repartir là-dedans parce que ça prend trop de temps, mais c'est toute l'encyclique de Pape XI, Quas Primas, donc qui explique que notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature parce qu'il est créateur, mais il est aussi roi par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Notre Seigneur n'est pas que créateur, attention, il est rédempteur aussi. Donc en tant que rédempteur, il a acheté, en quelque sorte, il a payé d'une certaine façon, il a obligé le démon à lâcher sa proie par la rédemption. Donc que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc que vos préceptes soient observés par les hommes sur la terre, comme ils le sont dans le ciel, par les anges et par les saints. C'est-à-dire, les anges du ciel obéissent parfaitement à la volonté divine, ils ne peuvent pas aller contre cette volonté divine, eh bien, nous, sur la terre, on va préparer le terrain pour essayer d'expliquer aux gens, même ceux qui ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ, que la seule façon d'être heureux, c'est justement de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est, on a un mal fou à expliquer ça aux modernes, par exemple. Les modernes ont un mal fou, par exemple, j'ai remarqué, à comprendre les vœux des religieux. Les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Quand on leur explique les vœux d'une religieuse, ils vont vous dire, c'est l'esclavage. Quand les révolutionnaires en 1789 ont ouvert les portes des couvents, en disant aux religieuses, vous êtes libre maintenant, faites ce que vous voulez, partez. Vous êtes dans le couvent. Et les révolutionnaires ont dit, mais partez, vous êtes libre, vous pouvez vous marier, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez jouir de la vie. Et les religieuses ont toutes répondu, nous avons déjà tout, par l'obéissance, le vœu de pauvreté, de chasteté, l'obéissance. Donc, quelqu'un qui est libre, qu'est-ce que c'est que la liberté? Quelqu'un qui est vraiment libre, c'est quelqu'un qui peut lutter contre les trois concupiscences. quelqu'un qui n'est pas esclave des concupiscences. Donc les religieuses dont je parle, lutter contre la concupiscence des yeux par l'esprit de pauvreté, par le vœu de pauvreté, lutter contre la concupiscence de la chair par le vœu de chasteté, lutter contre l'orgueil de la vie par l'obéissance. Et donc elles avaient parfaite maîtrise de toutes ces tentations, et donc elles avaient la pleine liberté. Au contraire, la liberté que le révolutionnaire voulait qu'elles aient, c'est une liberté qui consistait à couper justement ces trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, et donc il n'y a plus de protection. Et à ce moment, on part, c'est les passions qui partent à 300 à l'heure, dans tous les sens, on ne peut plus contrôler quoi que ce soit. Alors les révolutionnaires n'ont absolument pas compris ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé le cou à toutes les religieuses, parce qu'elles étaient incapables, selon les révolutionnaires, les religieuses et les religieux étaient incapables de comprendre la grandeur de l'État révolutionnaire. Et donc on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va demander à ces religieux, obliger ces religieux en quelque sorte à aller vers la perfection. Donc la volonté de mon Père, c'est que vous soyez parfaits, dit notre Seigneur. Donc par les trois vœux, pauvreté, chasteté, l'obéissance. Et pour les laïcs dans le monde, c'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance qu'on appelle les trois conseils évangéliques. D'accord ? Ensuite, quatrième demande, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, Saint Thomas résume, soit le pain sacramentel, la Sainte Eucharistie, soit le pain corporel. Selon l'expression de saint Matthieu, le pain supersubstantiel. Donc j'expliquais d'après saint Jérôme, le pain principal. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nos péchés. Pardonnez-les Seigneur, et faites-nous la grâce de pardonner nous-mêmes au prochain. Puisque je demande au bon Dieu de pardonner mon péché, bien la moindre des choses, c'est que je pardonne. Rappelez-vous la parabole que notre Seigneur Jésus-Christ explique du maître qui pardonne à son serviteur, qu'il a gravement offensé. Donc, qu'il a une énorme dette envers le maître, et il ne peut pas la quitter, cette dette. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le maître dit, bon, on va le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Le serviteur se jette à genoux, demande pardon. Non, je vous demande pardon, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour arriver à payer, et pardonnez-moi. Et le maître, dans sa miséricorde, dans sa bonté, pardonne tout. Et à ce moment-là, le serviteur qui vient d'être pardonné, qui a été acquitté de toute sa dette, il trouve un de ses copains de travail qui lui donne une somme misérable, et il le prend à la gorge et exige un paiement immédiat. Et les témoins de cette scène sont tellement scandalisés qu'ils en parlent au maître, qui va jeter en prison, dans le lieu des pleurs, des grincements de temps, dedans la personne qui refuse de pardonner. Donc puisque le bon Dieu, dans sa miséricorde, m'a pardonné des péchés énormes par le sacrement de pénitence, la moindre des choses, c'est qu'il demande à ce que nous aussi nous pardonnions au prochain. Donc faites-nous la grâce de pardonner nous-mêmes au prochain, comme c'est quelque chose qui est pratiquement naturellement impossible, pratiquement impossible de pardonner, si vous voulez, sans un motif surnaturel, eh bien le bon Dieu nous le fait demander dans le pater. Enfin, ne nous induisez point à tentation, j'ai déjà expliqué, ne permettez point que nous succombions aux épreuves que vous nous enverrez. Délivrez-nous du mal, délivrez-nous des peines et des misères de cette vie, d'encore, et des misères spirituelles. Donc, le préambule, dit le Père le Breton, notre Père, ça s'intègre saint Thomas, notre Père qui est dans les cieux, a pour but d'exciter notre confiance par la considération de l'amour que Dieu a pour nous et par la vue de la supériorité de sa puissance. Et alors, en bas de la page 102, donc j'ai mis d'autres textes intéressants de saint Thomas. On va commencer un petit peu à les expliquer. Donc saint Thomas va également montrer le lien qui existe entre ces sept demandes du Pater et les dons du Saint-Esprit. Alors ça, encore une fois, Monseigneur Lefebvre nous a très souvent prêché ces choses-là dans les retraites de préparation, parfois les retraites de semaine sainte. Le lien qui existe entre les sept demandes du Pater et les dons du Saint-Esprit. Par exemple, que votre nom soit sanctifié, c'est la crainte de Dieu. Que votre règne arrive, c'est la piété. Que votre volonté soit faite, c'est la science. Donnez-nous notre pain de chaque jour, c'est la force. Pardonnez-nous nos offenses, c'est le conseil. Ne laissez pas succomber à la tentation, c'est l'intelligence. Délivrez-nous du mal, c'est la sagesse. Vous voyez ? Et là, quelques phrases, Saint Thomas résume tout. Donc j'ai mis les textes de Saint Thomas en bas de la page 102. Voilà ce que dit saint Thomas. C'est certainement ça fait partie, à mon avis, des plus beaux textes de saint Thomas d'Aquin. Donc il y a 7 phrases de saint Thomas, chacune correspondant à chaque don de Saint-Esprit. Il y a 7 dons de Saint-Esprit, 7 demandes du Pater, et saint Thomas va les relier. Si la crainte de Dieu rend heureux, en bas de la page 102, si la crainte de Dieu rend heureux les pauvres en esprit, demandons que les hommes aient le sentiment de la sainteté du nom divin, du vin dans la crainte filiale. D'accord ? Donc c'est bienheureux les pauvres en esprit. Ça, c'est la crainte de Dieu, que votre nom soit sanctifié. Donc, quand on demande la sanctification, que le nom de Dieu soit sanctifié, on demande l'esprit de la pauvreté en esprit, et l'esprit de simplicité, la crainte de Dieu. Deuxième don, si la piété rend heureux les doux, demandons l'avènement de son règne, car alors nous serons doux et nous ne lui résisterons pas. Que votre règne arrive, ça correspond à la béatitude, bienheureux les doux. Et ça, c'est la piété. Et saint Thomas donc va unir 3 choses, les 7 demandes du Pater, les 7 dons du Saint-Esprit, les béatitudes. Troisième point, si la science rend heureux ceux qui pleurent, prions pour que s'accomplisse sa volonté, car alors nous ne pleurerons plus. Donc que votre volonté soit faite, c'est bienheureux ceux qui pleurent. Et ça, c'est don de science. Après, si la force rend heureux les affamés, demandons que notre pain quotidien nous soit donné pour être forts, justement. Nous donner notre pain quotidien, c'est bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et c'est la force. Cinquième point, si le conseil rend heureux ceux qui font miséricorde, remettons les dettes pour que les nôtres nous soient remises. Donc pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bienheureux les miséricordieux, c'est donc conseil. Enfin, les deux derniers, l'intelligence rend heureux les cœurs purs. Prions pour n'avoir pas un cœur double qui nous fasse poursuivre les biens temporels, source de toutes nos tentations. Donc ne nous laissez pas succomber à la tentation, c'est bienheureux les cœurs purs, l'intelligence. Et enfin, dernière demande du Pater, délivrez-nous du mal. Donc c'est ce que dit saint Thomas, si la sagesse rend heureux les artisans de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu, prions pour être délivrés du mal, car cette libération fera de nous les libres fils de Dieu. Donc délivrez-nous du mal, ça correspond à bienheureux les pacifiques et le don de sagesse. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de cet article 9 de la question 83 de la... Seconde, qui est certainement un des plus beaux articles de la Somme. On peut discuter quel est le plus grand article de la Somme, mais à mon avis, c'est un des plus beaux. On va arrêter là. Donc aujourd'hui, on est le 13, non, c'est ça ? Enfin, terminé par une prière. Oups. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.